Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Laetitia au micro. Je ne vous la présente pas, elle est l'hôte du podcast Derrière les sourires. Et elle revient avec nous aujourd'hui sur son impatriation en France, après avoir passé plusieurs années aux États-Unis. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Laetitia.
Salut Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Merci de m'accueillir et de me donner la parole.
Écoute, avant qu'on démarre, j'aimerais que tu te présentes, comme d'accoutumé maintenant, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Oui, alors du coup, donc moi c'est Laetitia, j'ai 39 ans et demi, j'approche de la quarantaine. Je suis mariée à Loïs et nous avons ensemble deux enfants, Olivia qui a un peu plus de 5 ans et Noam qui a 3 ans et demi.
Et alors, dans ton cas, donc tu es rentrée en France. Ouais. Du coup, j'aimerais bien, à la différence de d'habitude, que tu nous fasses une rétro américaine / internationale, ouais. À savoir où est-ce que tu habitais en fait avant de rentrer en France.
Ouais, alors en fait, si on peut repartir même un tout petit peu plus loin, donc en 2013, donc j'étais déjà avec celui qui est maintenant mon mari, on n'était pas mariés à l'époque, mais donc lui travaille pour une entreprise, on habitait Grenoble, et lui travaille pour une entreprise américaine qui a des filiales un peu partout dans le monde. D'accord. Et en janvier 2013, il est rentré un soir en me disant, il y a des postes ouverts aux États-Unis, donc la possibilité d'être muté en interne dans son entreprise pour aller travailler aux États-Unis. En sachant que lui avait déjà vécu aux États-Unis plusieurs années auparavant, dans le Colorado. Moi, on avait voyagé aux États-Unis sur la côte Est et la côte Ouest, mais moi, je n'y avais jamais vécu. Par contre, c'était vraiment comme un rêve d'y vivre. Mais à l'époque, je savais très, très bien les difficultés d'obtenir un visa pour y vivre. Donc, pour moi, c'était un rêve. D'ailleurs, je lui en avais jamais même parlé, en fait, d'avoir envie d'y vivre. Mais du coup, ce soir-là où il est rentré, je lui ai dit, bah, vas-y, fonce, faut qu'on y aille. Il faut, faut tenter notre chance, quoi. Et ouais. Du coup, voilà. Donc, il a été... Bon, il y a eu toute une série d'entretiens, etc. Et finalement, donc, en fait, notre choix très rapidement, il y avait donc plusieurs postes ouverts dans plusieurs États aux États-Unis. Et notre choix s'est très rapidement porté sur Portland, sur la ville de Portland en Oregon. Donc, l'Oregon, c'est l'État qui est situé entre l'État de Washington avec Seattle sur la côte ouest et l'État de Californie que beaucoup de Français connaissent du coup. Mais voilà, c'est ce petit État qui est un peu coincé entre ces deux gros États.
Est-ce que c'est aussi plus vieux que Seattle, juste blague à part?
Alors, c'est plus vieux, mais en fait, moi, je crois sur... c'est pas aussi ensoleillé que la Californie, mais c'est pas... Enfin, moi, j'avais vécu en Irlande auparavant, et honnêtement, j'ai pas trouvé ça pire que l'Irlande, par exemple.
Ah non, mais de toute façon, rien n'est pire que l'Irlande. Hein.
Mais bon, c'est vrai que oui, c'est plus vieux que la Californie, ça, il n'y a pas... Oui. Voilà, à n'en pas douter, mais je pense que c'est à peu près du niveau de Seattle, peut-être un petit peu moins, mais bon, c'est... Voilà.
Ouais. Mais pourquoi Portland? Vous aviez trois choix, c'est ça. Donc, pourquoi Portland? On vous l'a imposé?
Non, pas du tout. On ne nous l'a pas imposé du tout. En fait, il a regardé les postes qui étaient ouverts. Alors, il y en avait un qui était dans le Upstate New York, donc au nord de l'État de New York. Et, et en fait, pour les conditions météo, ça ne nous tentait pas trop. Et puis, du coup, New York, c'est sympa, mais quand tu es dans l'Upstate, je sais pas, on ne se sentait pas trop, quoi. Et puis après, il y avait Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et là, c'est plutôt les conditions
plus
climatiques.
Chaud.
Ouais, c'est ça. Et Loïs,
donc,
en fait...
Donc, t'as le choix entre la neige, la pluie ou le soleil. Enfin, je veux dire,
c'est ça.
Le désert.
Le cramage. Ouais, c'est ça. Et du coup, Loïs, il gère pas très, très bien la chaleur. Donc, en fait, très rapidement... Et donc, lui avait vécu dans le Colorado. Il n'était pas allé à Portland à ce moment-là. Mais du coup, il connaissait un petit peu Portland de réputation, on va dire. Et du coup, Portland, d'accord. Parce que c'était une ville côtière, enfin, plus ou moins, et ça nous paraissait être un bon compromis entre une grosse mégalopole américaine et puis pas un truc non plus trop perdu comme Fishkill, du coup, pour citer la ville dans l'Upstate New York. Donc, on s'est dit, ça a l'air sympa, puis côte ouest, c'est chouette, etc. Et du coup, donc en fait, quand on a su qu'il y avait des opportunités, donc il y avait ces trois choix, et on a choisi Portland pour ces raisons-là, et il n'a postulé que sur le poste de Portland. Et au bout de plusieurs mois de recrutement, d'entretien, d'aller-retour, etc., on a eu la nouvelle comme quoi il était retenu pour le poste. Et donc, on était super contents. Et du coup, en gros, lui est parti en août et moi, je suis partie, enfin, je l'ai rejoint en septembre, le temps de faire voilà, les derniers papiers, les derniers trucs, mon visa ouais. aussi, etc. Donc,
en 2013 donc, ou en voilà. 2014, du coup
ça, en 2013.
Ça prend quelques mois. Ok.
Ouais, ouais. Bah, non, en 2013, en fait, il a postulé en janvier. On a été notifié le 1er mai, d'ailleurs, qu'il obtenait le poste. Ensuite, il est parti en formation. On s'est marié en juin, vite fait. Et puis, du coup, moi, là, j'ai pu entamer les procédures pour le visa. Et lui est parti le 4 août pour Portland. Et moi, je l'ai rejoint le 28 septembre, le temps de s'occuper de notre appart en France, de faire mes papiers, parce qu'il a fallu que je refasse mes papiers d'identité avant de pouvoir faire mon visa.
Enfin, oui. Bref. Bah, c'est un peu vos premiers mois de mari et femme.
Ah bah oui, on ne s'est pas vus en fait pendant des semaines et des semaines. Mais bon, c'était pour
c'est
la bonne
sympa.
Cause. Et,
oui, et voilà, ça forge la relation directe. Ouais. Et alors, donc vous arrivez à Portland en 2013.
Ouais, exactement.
J'imagine qu'au fur et à mesure des années, donc toi tu arrives à trouver un travail là-bas. C'est ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est allé très vite. Donc, on n'avait pas les enfants à l'époque. Moi, j'ai trouvé un boulot. Donc, il a fallu, quand je suis arrivée, il a fallu que j'attende mon permis de travail, qui est une démarche supplémentaire à faire sur place.
Le EAD.
Mais en gros, voilà, j'ai attendu un mois et demi à l'époque. Et donc, j'ai eu mon EAD en courant novembre, je crois. Et du coup, bon, les fêtes de Noël arrivant. Enfin, il y avait Thanksgiving et après les fêtes de Noël. Mais en gros, j'ai commencé à postuler début janvier et j'ai trouvé très, très rapidement dans ma branche, donc dans l'événementiel, dans une agence événementielle. Et j'ai commencé, je crois, le 7 février de mémoire.
Trop bien. Donc, un mois, tac, tac. C'était fait.
Ouais, bon, un mois de candidatures. Et voilà, la deuxième a été la bonne et j'ai été prise. Et du coup, voilà.
Easy peasy. Ah, et ton niveau d'anglais, alors, du coup, j'imagine qu'il était quand même assez performant.
Ouais, alors en fait, ce que je n'ai pas précisé, mais en fait, moi, j'ai vécu 2 ans en Irlande après mon bac. Donc, bon,
ah bah
ça
oui,
remonte
si,
un
si,
petit
bah
peu
la
maintenant.
Pluie, on en parle.
On parlait de Dublin, voilà. Mais du coup, voilà, moi, j'avais vécu 2 ans en Irlande. Et puis, en plus, j'avais toujours travaillé dans des entreprises internationales. Donc, j'avais vraiment réussi. En plus, bon, l'anglais, c'était une langue vraiment où j'ai eu des facilités très, très vite. Et j'ai toujours adoré parler anglais. Je pense que l'un et l'autre, du coup, sont complémentaires. Donc, mon niveau d'anglais en arrivant était relativement bon. Après, j'ai encore beaucoup progressé. Mais quand même, j'avais un très bon niveau d'anglais et surtout, j'étais très, très à l'aise et je n'avais pas du tout d'appréhension à parler anglais.
Ok, bah, trop bien. Par contre, petit aparté, 2 ans à Dublin, je ne sais pas comment tu as survécu. Hein.
Ah, c'était les meilleures années de ma vie. Ah, non,
c'est vrai,
génial.
J'ai fait 6 mois à Dublin, j'étais au fond du gouffre.
Ah ouais, non, moi j'ai adoré. Enfin, c'était une période particulière, mais...
C'est marrant. Comme quoi, voilà,
oui,
chacun a sa propre expérience...
Exactement.
Donc, vous vous installez, vous avez tous les deux un travail. J'imagine que c'est là où vous commencez aussi à étendre la famille, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, du coup, Olivia est arrivée en septembre 2015. Et moi, je travaillais plus à ce moment-là. Et puis, voilà, j'ai repris le travail en juin 2016. Et je suis tombée enceinte de Noam pas très longtemps après. Et Noam est né en juillet 2017.
Ouais. Et alors, à quel moment arrive cette conversation à se dire « Bon, on a passé X années, voilà, on parle de chiffres, je suis nulle en calcul mental, donc je ne vais même pas arriver là-dedans. » à quel moment, du coup, arrive la conversation à se dire on va peut-être commencer à se rediriger vers la France.
En fait, la conversation, les choses ne se sont pas tellement passées de façon aussi explicite. C'est-à-dire que... Donc, on arrive en 2013, donc plutôt fin 2013, et c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, plutôt 3 ans, je sens que Loïs commence à en avoir un petit peu marre, le boulot est un peu rébarbatif. Il a parfois du mal avec la mentalité américaine, ou en tout cas avec, par rapport à ses collègues. Et puis le fait est, je pense qu'en devenant père, je pense qu'il y a un poids qui s'est comme un peu ajouté sur ses épaules, enfin quelque chose qui est très inconscient en fait, hein, mais de cette responsabilité souvent qu'on donne au père, etc., d'un point de vue financier, etc. Et donc voilà, donc déjà, je pense après la naissance d'Olivia, je sens que il a des moments vraiment, voilà, des petits coups de blues, un peu le mal du pays. Mais bon, voilà, on n'en parle pas trop parce qu'en plus, moi, ma carrière se passe super bien. Donc, j'ai changé. Enfin, j'ai été, après mon premier poste, j'ai été débauchée par une autre agence événementielle. Et puis j'ai bossé chez eux, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que ça ne se passait pas très très bien pour moi. Puis voilà, je voyageais énormément et j'étais enceinte d'Olivia, donc bon, c'était compliqué.
Ouais, pas...
Et puis après, bah, j'ai retrouvé un boulot quand Olivia avait 8 mois. Et puis bah, là, de nouveau, un super poste avec moins de voyages, mais un super salaire, une super équipe, etc. Donc on n'en parlait pas trop parce qu'il sentait que moi, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Mais je sentais que voilà, pour lui, c'était un peu compliqué et qu'il ne se voyait pas rester aux États-Unis toute sa vie, en fait.
Ouais, il voulait pas changer de travail.
Non, parce que alors c'était pas que le travail en fait, c'était un peu un tout, tu vois. C'était bon le travail qui lui plaisait pas trop, c'était un peu l'ambiance, c'était un peu la lourdeur financière, et puis l'éloignement avec la famille aussi, tu vois. En fondant une famille, je pense que ça a joué un petit peu là-dessus. Mais bon, c'était des choses qui étaient latentes et si tu veux, c'était pas comment dire très fort au point où on se dit bon là faut vraiment qu'on établisse un plan d'action et qu'on parte quoi. Mais voilà, c'était dans le coin de sa tête. Moi je savais que ça le dérangerait pas de rentrer en France et du coup voilà. Et en fait ce qui s'est passé, donc vraiment on cherchait pas hein, je veux dire on n'a jamais postulé en France, même si voilà on savait tous les deux que bon bah peut-être qu'on y ferait pas notre vie, mais voilà il se passait rien, on était vraiment dans notre quotidien. Puis enfin, littéralement, je venais d'accoucher de Noam. Et en fait, une semaine après la naissance de Noam, Loïs a reçu un email de la part de son ancien employeur, enfin, comment dire, son ancien chef, on va dire son chef français, donc de la filiale française dans laquelle il travaillait jusqu'en 2013, qui lui dit, écoute, si tu veux, il y a un poste pour toi, si tu as envie de rentrer, il y a un poste pour toi. Et en fait, c'est là, en fait, où, vu qu'il y a eu cette opportunité, en sachant que ce n'était pas la première, il avait déjà été recontacté deux fois par cette même filiale en disant « Est-ce que tu aurais envie de rentrer ? Il y a un poste, etc. » Mais à chaque fois, on avait décliné parce que voilà, on était bien dans notre vie malgré tout, et puis ça, la question ne se posait pas. C'est là, en fait, c'est cet email-là qui a été un déclencheur pour qu'on se pose la question, en fait. Alors qu'on se laisse, enfin, tu vois, on sortait de la maternité, quoi. Littéralement, tu m'imagines, une semaine après l'accouchement, avait déjà un enfant, en plus, tu vois, c'était notre deuxième. On n'avait pas du tout dans l'esprit de rentrer en France, pas à ce moment-là, quoi. Mais du coup, si tu veux, ça a planté une graine, et là, on s'est dit, bon, attends, ça fait trois fois c'est la troisième fois qu'ils reviennent vers nous. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait? Et c'est là que vraiment on a commencé à peser le pour et le contre et à se dire qu'est-ce qu'on fait, enfin, et vraiment à considérer l'option du retour en France.
Mais alors, justement, tu me parles de pour et contre. Quels étaient les points qui pesaient dans la balance? Parce que tu me disais que toi, tu étais heureuse professionnellement. Ça, c'est quand même un sacré contre. Tu vois?
Ouais, moi j'étais heureuse professionnellement et puis surtout ma carrière était bien lancée. Enfin, l'événementiel aux États-Unis ça a beaucoup plus d'importance qu'en France, donc voilà, j'avais un poste à responsabilité très très bien payé. Enfin voilà, et puis des perspectives d'évolution. Mais après tous les contres en fait qui ont joué, c'était en fait, si je le résume en une phrase, mais je vais te le détailler, c'était qu'on n'arrivait plus à se voir sur le long terme, on n'arrivait pas à s'imaginer serein sur le long terme aux États-Unis. Et donc, par là, en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que aux États-Unis, en fait, la vie coûte vraiment très cher. Enfin, ça, c'est notre ressenti. Après, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais nous, on trouvait que c'était cher. C'est-à-dire que, bon, tu payes soit ton loyer, soit ton mortgage, donc ton prêt immobilier. Ensuite, si tu veux essayer de vivre... de façon, comment dire, à la française, dans le sens où si tu veux être prévoyant, d'accord, pas à la française pour manger du fromage, hein, à la française pour être prévoyant, c'est-à-dire que tu veux avoir un minimum de filet de sécurité si t'arrive quelque chose, maladie, chômage, accident, etc., retraite aussi, et ben en fait tout coûte vraiment vite cher, en fait. Et en fait, une fois qu'on faisait le budget, tu vois, mis bout à bout, on se disait, mais comment on s'en sort, en fait, parce qu'il faut que tu cotises pour ta retraite, l'assurance santé coûte cher, et encore, il ne nous est jamais rien arrivé, donc voilà. Et puis, bah, techniquement, tu es censé commencer à réfléchir à l'avenir de tes enfants quand ils naissent, en fait. Et on avait des copains américains qui ouvraient, en fait, un plan d'épargne pour payer l'université de leurs enfants quand ils sortaient de la maternité. Enfin, ils ouvraient ce plan d'épargne quand ils sortaient de la maternité, tu vois. Et on se disait, bon, bah là, il faudrait qu'on contribue tant et tant. Et puis après, bah, t'as les frais de daycare, donc de crèche, qui nous coûtaient 2 500 $ par mois pour les deux à temps plein. Et tu vois, tout ça venait et pourtant, on gagnait plutôt bien nos vies pour Portland. Et on se disait, mais on peut pas s'en sortir, quoi. Il y a forcément un truc qu'il va falloir qu'on rogne sur un truc, quoi. Et en fait, c'était ça, en fait. Donc, tous les contres, c'était très, voilà, très orienté financier et un petit peu, si tu veux, dans la... se projeter sur le long terme et d'essayer d'arriver à joindre les deux bouts financièrement, on n'y arrivait pas. Il y avait aussi très clairement le fait qu'on accueillait notre deuxième enfant dans la famille et qu'on commençait à ressentir un petit peu les effets de l'éloignement avec la famille. Et après ça, ouais, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui le ressentent, d'autres qui ne le ressentent pas.
Bon, bien sûr. Voilà,
c'est... Nous, ça nous pesait un petit peu.
Donc, vous êtes tous les deux très proches de vos
non,
familles respectives.
On n'est pas, très proches de nos familles respectives, mais on ressentait, tu vois, on se disait, ben ouais, enfin, ils vont être loin de leurs cousins, ils ne vont pas grandir avec. Et puis, autre chose, en fait, c'est qu'on n'a pas de soutien, quoi, tu vois. On a personne sur qui compter, en fait, aux États-Unis. Et ça nous pesait aussi un petit peu en étant jeunes. Alors, on n'était pas jeunes, mais on était jeunes parents dans le sens avec des enfants, tu vois, des nouveaux parents, quoi. Et avec deux enfants rapprochés en bas âge. Et voilà, ça nous... Enfin, on sentait que déjà après avoir eu Olivia et que, ouais, on n'avait pas de temps mort pour nous, quoi. Et ça, c'était un peu dur. On disait, si on rentre en France, on aura certainement du relais, on aura plus de soutien, etc. Et puis après, ce qui s'est passé aussi, donc ça, c'est l'autre pan du truc... c'était de se dire que c'était que, en fait, moi, je savais que Loïs commençait un peu à en avoir marre de la vie aux États-Unis. Ça faisait déjà un ou deux ans qu'il en avait marre. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est un choix cornélien, mais c'est juste pour personne. Si on continue, c'est entre guillemets lui qui ronge son frein, si tu veux. Et si on rentre, c'est moi qui, ben voilà, c'est moi qui fais un pas vers lui, mais... C'était une balance, enfin, comment dire, un équilibre vraiment très, très dur. Et honnêtement, à ce jour, c'est la décision la plus difficile qu'on ait eu à prendre dans notre couple. Et ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et c'est la décision la plus difficile qu'on ait eu à prendre dans notre vie de couple, pour l'instant.
C'est quand même un sacré compromis, que ce soit pour l'un ou pour l'autre.
Mais oui.
Alors, je suis désolée, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'était, du coup, choisir l'option de facilité, étant donné qu'on vous proposait sur un plateau argenté une offre, plutôt que se dire, bon, on a conscience que tu n'es pas heureux dans ce pays, est-ce qu'on peut trouver un autre pays de médiation? Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être pas rentrer en France nécessairement, mais se rapprocher, je ne sais pas, de pays européens. En plus, enfin, il travaille pour une entreprise américaine, donc il pourrait avoir d'autres filiales dans d'autres pays européens. Je sais pas.
On aurait pu faire ça, mais en fait, comme l'idée, c'était, enfin, à la base, c'était pas vraiment qu'on voulait rentrer en France. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer. On cherchait pas. En fait, il y avait ce, voilà, ce petit mal-être, mais qui n'est pas non plus omniprésent. Hein. Mais en fait, c'est vraiment la proposition du job en France qui a fait qu'on s'est posé la question. Et qu'effectivement, tu as raison, hein, ils nous ont déroulé le tapis rouge pour rentrer en France, en tout cas dans les faits. Après, il y a eu des petits couacs, mais peut-être qu'on en parlera. Mais en gros, on rentrait quand même avec une situation hyper confortable en France. Mais du coup, en fait, c'est vrai que l'étape, et si on allait ailleurs dans un autre pays, ne s'est pas posée, en fait, parce que dans un autre pays, repartir de zéro tous les deux...
Avec deux enfants.
Avec deux enfants, ça paraissait compliqué, alors que là, en fait, potentiellement, on rentrait en France, mais avec un avenir garanti, en fait. Avec Loïs, qui avait ce poste, avec des très bonnes conditions... Et du coup, voilà. Et c'est ce qui a fait... Oui, c'est clairement ce qui a fait pencher la balance. Hein, mais oui, après, rester aux États-Unis, pour nous, c'était pas une option. Tu vois, aller dans un autre État, c'était pas une option dans le sens où, en fait, on était très bien à Portland. On n'avait rien à reprocher à la vie. Le climat nous convenait. Enfin, la vie nous convenait. C'était vraiment chouette. Donc, c'était pas dire l'État ne nous plaît plus et on s'en va. C'était se dire, mais est-ce qu'on va vraiment trouver mieux ailleurs en termes de salaire? Parce que, par exemple, tu peux déménager dans d'autres États, et toi qui es en Californie, tu sais, tu descends en Californie, bah, les salaires sont plus gros, mais les logements,
oui, mais les loyers,
c'est trois fois, tu vois, c'est pareil, c'est trois fois plus cher.
Et ils se font plaisir aussi sur les taxes, donc...
Voilà, c'est ça, c'est vrai qu'on aurait qu'on n'y en a pas. Et puis la question de la retraite, la question de l'université des enfants, tout ça nous... En fait, ça ne résolvait pas ça, en fait, de rester aux États-Unis. Et voilà. Et après, c'est vrai que la question de l'étranger, un autre pays, ça s'est pas posé parce qu'il y a eu cette opportunité, que c'était une belle opportunité, et qu'on a décidé de la saisir.
Et alors, à quel moment, enfin, quel est le déclic à se dire, OK, on accepte l'offre?
Alors, ça a été, en fait, ça a été un truc qui nous a tenu en haleine pendant plusieurs semaines, je te dirais, parce que ils sont venus. Alors après, donc, il a fallu formuler une offre, mais après, il y a tout un tas de process qui se mettent en place pour la relocation, donc le fait de te renvoyer en France. Donc, une fois qu'on a vraiment eu sur papier tous les détails qu'on avait négociés, la voiture à l'arrivée, le logement à l'arrivée, le salaire qu'on voulait, les aides pour les enfants, les aides pour ceci, pour cela. Vraiment, quand on a eu sur le papier tout le package qu'on avait négocié, là, on s'est dit, bon, ben, OK. Concrètement, à ce moment-là, c'était, ben, on ne peut pas négocier mieux, quoi. Donc, oui, c'est une évidence, en fait.
Mais alors, comment tu te sentais, toi? Parce que tu dis « on ». Mais clairement, c'était Loïs. Enfin, je veux dire, OK, c'était le package familial. T'étais soulagée, t'étais contente, anxieuse?
Non, mais même, je te dirais que tous les deux, même si Loïs, il avait, on va dire que c'était lui qui avait plus envie de rentrer en France, je pense que honnêtement, c'est une décision qui nous a vraiment torturés. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, c'est la décision la plus dure qu'on ait prise dans notre couple. Et je pense que cette décision, elle nous a torturés pendant longtemps, même quand on était en train de déménager et même quand on est rentré en France. Le soulagement, je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu un comme on peut l'imaginer, genre « Ah, ça y est, on rentre en France », tu vois, parce qu'on n'avait quand même pas grand-chose à reprocher. Ce qu'on a dû faire, c'était de comparer, si tu veux, dans un sens, le quotidien d'un pays. On ne comparait pas le quotidien dans deux pays, on comparait le quotidien dans un pays avec l'avenir dans un autre pays. Tu vois, c'était ça le différentiel, en fait. Le quotidien était génial aux États-Unis. Le long terme nous paraissait compliqué. En France, le quotidien est un peu plus compliqué, mais le long terme nous paraissait plus facile. Donc, moi, je ne me suis pas sentie soulagée. En fait, je ne me suis même pas en fait, autorisée à ressentir, si tu veux. Parce que, donc, on avait Olivia qui avait 2 ans, tout juste 2 ans. Noam qui avait, on va dire, 1 mois et demi au moment où on a su que, OK, on allait partir. Et sur ce, il a fallu que moi, je gère mon job. Enfin, que nous, hein, tous les deux, qu'on gère notre job chacun parce qu'on a continué à bosser jusqu'au dernier jour. Il a fallu qu'on gère la vente de la maison. Il a fallu qu'on gère tout ce qu'un déménagement à l'international représente avec 2 enfants des âges que je t'ai dit, tu vois. Et en fait, on était un petit peu perturbés, mais je pense qu'on était surtout tête dans le guidon. Et jusqu'à partir, on a été tête dans le guidon, en fait.
Tu vois, ça me paraît étrange quand même de partir et de pas être, pas sembler super content, tu vois.
Ouais, de pas sembler content de partir.
Ouais, de rentrer, parce que tu me dis, bon, on était quand même tête dans le guidon et que c'était stressant, donc, mais vous étiez heureux quand même de votre décision?
Non.
Ouais.
Non, honnêtement, on l'était pas, mais je peux même te dire que le dernier jour, on a vécu 1 semaine en logement temporaire parce qu'on a vendu la maison dont on était propriétaire en Oregon. Donc, on est parti 1 semaine dans un Airbnb jusqu'à, en fait, aller prendre l'avion pour rentrer en France. Et le dernier jour, il y a des potes qui sont venus nous dire au revoir devant ce Airbnb et nous aider à mettre les valises. Et en mettant les valises, tous les deux, on leur a dit, je sais pas si on n'est pas en train de faire une connerie. Donc, ouais, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas. On a été perdus, franchement. C'était une décision qui a été dure pendant très longtemps et on n'était pas sûr de notre décision, en fait, franchement.
Ouais. Parce que j'imagine en plus que, donc, du coup, vous reveniez aux sources, c'est-à-dire à Grenoble. Il n'y avait même pas un changement de ville en France. C'est-à-dire, on retourne à notre, entre guillemets, ancienne vie, mais on rajoute... deux petites têtes supplémentaires, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors ça, à la fois, si tu veux, ça me... Dans un sens, tu vois, ça me minait un petit peu. Dans le sens, je me disais, oh, il n'y a rien d'exotique, quoi. Tu vois, on connaît déjà la ville. Mais en même temps, là où je voyais du bénéfice, c'est que du coup, moi, j'ai de la famille à Grenoble. Loïs, il n'est pas originaire de Grenoble, il est originaire d'Alsace. Mais du coup, moi, j'ai de la famille et je m'étais dit, ben, je sais que, tu vois, je pourrais compter sur eux quand on arrive. Enfin, voilà, je me raccrochais à ça, quoi. Le fait de retrouver un peu quand même des lieux familiers et donc ouais, c'était un peu à double tranchant. Auparavant, quand on en avait parlé avec Loïs, je lui disais avant que tout ça se soit concret, je disais, ah bah tu sais, si un jour on rentre en France, moi ça me dirait bien par exemple d'aller vivre en Alsace, parce que je connais, parce que ça fait 14 ans qu'on est ensemble et que du coup on va souvent en Alsace, mais j'y ai jamais vécu et c'est une région qui me plairait, tu vois. Mais bon, voilà, le job a fait que c'était sur Grenoble. Et donc ça, c'était pas le pire, je te dirais. D'un côté, ça m'a un peu miné. Et dans un sens, c'était aussi pas mal des fois d'avoir des lieux familiers puis des têtes familières, en fait.
Donc pas plus excité que ça quand même d'aller retrouver les, je sais pas, oncles, tantes, frères, sœurs, famille.
Enfin, c'était vraiment un sentiment très très partagé. On était contents de les revoir. Mais c'était pas comme quand t'es content de rentrer en France pour Noël ou pour les vacances parce que tu vas les revoir, mais après tu sais que tu rentres chez toi. Là, c'était genre, on est content de les voir eux, mais on est complètement perdu à savoir si on a pris la bonne décision ou pas.
D'accord.
Donc mitigé.
Et toi, comment tu t'organises professionnellement, parce que ouais. ton dream job, est-ce qu'ils acceptent du coup de te garder en remote depuis la France, en freelance
ouais.
par exemple?
En fait, ça c'est la chance enfin extraordinaire que j'ai eue, c'est que quand on a su donc que qu'on allait très fort enfin très probablement rentrer en France, donc c'était en octobre, je ne me rappelle plus la date exacte, mais je me rappelle juste que ça faisait pas très longtemps que j'étais revenue de congé maternité, et que mon chef était lui parti 2 semaines en Europe pour les vacances, et en gros quand il est rentré, je lui dis ouais bah, hey, salut, je suis de retour de mon congé mat, par contre je voulais te dire un truc, mon mari a une super opportunité, ouais c'était un peu ça, non mais c'était ça, en plus on s'était pas vu depuis 3 mois, parce que, enfin pas 3 mois, mais ouais 2 mois et quelques, et je dis, bah, écoute, Loïs a une super opportunité en France, elle est difficile à refuser, donc voilà, on a pris la décision de rentrer en France, mais moi, je voudrais vraiment qu'on continue à travailler ensemble. Et en fait, j'ai eu une chance inouïe, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, peut-être pas en fait, mais en tout cas, il m'a dit, écoute, pas de souci, moi, je veux qu'on continue à travailler ensemble, donc rentre en
Trop
France
bien.
Et tu continues de bosser pour nous à distance. Et ouais, ça, c'était génial. Ça, c'était le réconfort dans le retour, de me dire que j'ai pas perdu mon boulot.
Oui, et puis, ça te faisait une petite accroche toujours voilà, aux US.
Ouais, exactement.
Et les enfants, alors, comment vous les préparez? Bon, j'imagine Noam était bien trop petit. Ouais. Mais Olivia, par exemple, comment vous lui dites, bon, bah voilà, on va rentrer en France?
Eh bien, non, alors elle avait 2 ans. Et tu vois, vraiment, ouais. où on arrive en France, elle a 2 ans et 3 mois. Donc... on lui en parle, ouais, hein, on lui en parle trop. Avant, parce que ben, forcément, on a fait les valises, tu vois, elle a vu ses jouets partir dans le conteneur. Donc tout ça, on lui a expliqué étape par étape. Ma maman venait chaque année depuis qu'Olivia était née, donc on disait, bah, tu vois, on va rentrer vivre plus près de Nana, comme ça on pourra la voir plus souvent. Elle venait de passer avec son papa, ils étaient rentrés en fait les 15 premiers jours de juillet. Cette année 2017, ils étaient rentrés en France, en Alsace pendant 15 jours. Moi, je n'avais pas pu voyager parce que j'étais enceinte de Noam, mais j'ai accouché 15 jours plus tard. Et du coup, elle avait vu son papy, elle avait vu voilà, sa mamie de l'autre côté, ses cousins, cousines. Donc, on a essayé voilà, un petit peu de formuler ça comme ça en lui expliquant qu'on allait avoir une nouvelle maison, qu'elle irait dans une nouvelle crèche, qu'on serait plus près de, bah, du coup, voilà, les prénoms des membres de la famille qu'elle connaissait. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai qu'à 2 ans, alors nous, on a toujours pris le parti de tout raconter à Olivia, mais je ne sais pas trop ce qu'elle en a compris ou pas, mais voilà, on lui a expliqué, en tout cas, on a répondu à ses questions si elle en avait. On lui a dit aussi qu'on allait dire au revoir aux gens bah, qui la gardaient ou les amis qu'on avait par là, etc. Et voilà. Le retour, enfin, si tu veux, la transition du déménagement, ça s'est bien passé pour elle, quoi. Après, ça a été compliqué, du coup.
Oui, bah écoute, ça me fait
une bonne transition.
Une super transition. Je dirais pas belle, mais comment ça se passe alors les premiers mois, la première semaine quand, boum, vous revenez à Grenoble?
Alors, je vais te raconter les 24 premières heures. Je pense que ça va être très, très parlant. En gros, donc, on est arrivé le 21 décembre en France et la compagnie aérienne nous a perdu nos valises. Donc, on se retrouve... du coup, en plus, même sans siège auto, parce que du coup, il y avait un des sièges auto, enfin, tu sais, le cosy, là, de Noam, on avait pu le mettre dans l'avion, mais le siège auto d'Olivia était parti en soute. Enfin, bref, on se retrouve sans rien à l'aéroport de Lyon. Et, bon, du coup, c'est pas grave, ils nous dépannent pour un siège auto dans la voiture qu'on avait louée. Et donc, ils nous font, en fait, un dédommagement, tu sais, pour qu'on puisse acheter des vêtements en attendant, quoi. Et ouais. Donc ça, c'était le 21, donc je pense que le 22 au matin, donc le 22 décembre, donc imagine-toi en pleine période de Noël en plus,
blindé de monde.
Exactement, on part au centre commercial qui est à côté de chez nous, en fait, pour essayer d'aller acheter trois fringues pour nous tous, quoi. Et puis en fait, c'est ça, en fait, on arrive déjà, rien que le parking est tellement minuscule que j'ai l'impression que je vais me prendre toutes les voitures, tu sais, dans les virages et tout, c'est juste la conduite, alors que j'adore conduire et que je pense que je conduis plutôt pas trop mal. Mais ça me stresse et les places de parking sont minuscules. Enfin bref, déjà un gros stress rien que pour atteindre le centre commercial. Et puis du coup, arrivant dans le centre commercial et voyant qu'il y a autant de monde, je dis écoute, tu sais quoi, on va diviser pour mieux régner. Donc pars faire ton shopping à toi, va t'acheter ce dont t'as besoin. Moi, je gère pour moi et on se retrouve, on finit pour les enfants ensemble, etc. Et genre, tu sais, on se dit, bah, rendez-vous dans 1 heure ou je sais plus ce que c'était. Et là, on se retrouve au bout d'1 heure dans le centre commercial, donc à un point donné, tu vois. Et en gros, on éclate en sanglots tous les deux en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait ? Qu'est-ce qu'on fout là ? C'est horrible, tout est petit, les rayons, tu peux pas circuler. » C'était vraiment, je sais pas, un sentiment vraiment, alors que je ne le suis pas du tout, de claustrophobie, tu vois, de me sentir étouffée, et puis alors pas du tout comprendre ce qui se passe. Donc voilà, ça c'était les 24 premières heures. Mais après, en gros, ça s'est pas aussi bien passé que ce qu'on espérait, d'un point de vue purement logistique. Donc on devait avoir un logement temporaire quand on est arrivé. Finalement, quand on a pris possession du logement temporaire, le logement était à la limite de l'insalubre. On n'avait même pas de quoi mettre le lit parapluie de Noam, qui donc à l'époque avait 6 mois, quoi. Ouais, fin juillet. Et du coup, donc là, on leur a dit non, mais en fait, c'est pas du tout possible, donc trouvez-nous autre chose. Bon, je te passe les détails, mais en gros,
en période de Noël.
Ouais, on venait juste de passer Noël, parce que du coup, Noël, on l'avait passé dans nos familles respectives, donc on n'avait pas enclenché, si tu veux, ce service-là de la relocation. Mais ouais, on était début janvier, et puis en gros, ils nous ont jamais rien trouvé. Donc moi, j'ai fait le forcing. Sympa. J'ai trouvé, en fait, je nous ai trouvé une maison Airbnb. Et c'était hors budget, mais j'ai appelé l'agence de relocation. J'ai dit, bah, écoutez, là, c'est ça ou rien. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc finalement, ouais, ça a été approuvé. Mais bon, du coup, voilà, on avait un mois dans ce logement. Puis, s'en est suivi, du coup, la recherche de logement plus définitif, on va dire. Et donc là, on devait être aidé d'une consultante qui épluchait les petites annonces pour nous, etc. Et puis, en fait, la nana était relativement inutile. Donc, c'est moi qui me retrouvais à éplucher toutes les petites annonces tous les jours avec des trucs qui étaient en ligne alors qu'en fait, c'était déjà pris. Voilà, ça, c'était très, très compliqué. Donc, et sachant que, donc, en parallèle de tout ça, Loïs a commencé son job le 2 janvier. Moi, je n'ai jamais arrêté le mien. Et surtout, moi, la semaine du 2 au 6 février de l'époque, date approximative, lance, en fait c'est mon plus gros, donc je travaille sur des salons professionnels et c'était mon plus gros salon professionnel de l'année, et en plus je lançais un tout nouveau stand, donc c'est un stand de 150 mètres carrés sur 2 étages, donc 300 mètres carrés au total, et c'était un projet sur lequel je bossais depuis 18 mois, et que juste avant mon départ de Portland, la boîte pour laquelle je bossais venait d'être rachetée, donc il y avait un nouveau PDG et un nouveau vice-président. Donc, gérer tout ça, en même temps que tu essaies de trouver un moyen de garde pour les enfants et que tu essaies de trouver un logement temporaire parce que dans un mois, tu es à la porte, ça a été une période absolument horrible. Horrible.
Vous ne pouviez pas décaler de base le contrat avec la boîte française et arriver en février quand toi, tu aurais fini ce gros projet ?
Non, parce qu'en fait, ils le voulaient. On avait déjà décalé vachement parce que du coup, je pense qu'on a accepté l'offre pour rentrer... Je pense que ça devait être peut-être mi-octobre. Et tu vois, on est quand même arrivé plus de quasiment 3 mois après et ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus que ça.
Ok. Ouais. Bon. Donc voilà. Donc tu as dormi alors en janvier ou comment ça se passe ?
Pas beaucoup, honnêtement. Au-delà du fait qu'en plus, on avait un nourrisson plus ou moins.
Mais, sympa vos journées.
Ouais,
ça donne envie. Hein.
C'était intense. Ouais. C'était intense.
Mais alors. Ouais, ça c'est quand même... vous avez essayé de pédaler, je dirais ça comme ça.
Ouais, on a pédalé, c'est le mot. Donc moi, mon salon de février s'est passé. En fait, on a trouvé le logement dans lequel on allait emménager. Je crois que c'était comme 3 jours avant que je parte sur mon salon à Amsterdam. Donc on savait qu'à mon retour, on avait 48 heures pour du coup quitter le Airbnb, coordonner du coup la livraison du conteneur en fait qui était arrivé entre-temps.
Ah bah oui.
Et du coup prendre possession de l'appartement qui allait être notre logement pendant quelques années après ça. Et du coup voilà, donc après bon février, ça s'est tassé un peu après mon événement. L'autre chose qui est venue un petit peu entacher notre sérénité, entre guillemets, c'est que le chef de mon chef, lui, n'était pas trop d'accord pour que je continue à bosser à distance. Et en fait, j'ai un peu cette menace de perdre mon job qui a plané au-dessus de ma tête. Et ça a été très difficile pour moi parce que, au-delà du lien avec les États-Unis, c'était... tu vois, moi, c'était un peu tout ce qui me restait de ma vie d'avant et mon indépendance... professionnelles et financières sont très très importantes pour moi et du coup voilà donc
très donc tu avais intérêt à keep it up quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis du coup en même temps c'était ça, et en même temps il fallait que j'assure un peu mes arrières, et donc là une opportunité s'est présentée Et en fait, la femme de mon cousin était secrétaire indépendante et elle était enceinte et elle allait, enfin, elle s'apprêtait à partir en congé maternité. Et du coup, elle m'a demandé si je voulais couvrir son congé maternité et aller travailler chez ses clients pour faire du secrétariat, tu vois. Et donc moi, avec, si tu veux, d'un côté, la menace que j'allais perdre mon job et la perspective de me retrouver sans emploi, et cette opportunité qui s'est présentée, ben, forcément, j'ai sauté dessus à pieds joints en me disant, ben oui, carrément, quoi, ouais. Et en fait, mon job américain ne s'est jamais arrêté parce que mon chef, si tu veux, a fait du forcing pour que je continue à bosser pour eux. Donc en gros,
Tu t'es rajouté une petite tâche supplémentaire.
C'est ça. Donc là, j'ai fait des semaines.
Sympa.
Ouais. Ouais. Donc ça a duré de début mars jusqu'à mi-juillet. Donc là, j'ai cumulé deux jobs, les enfants et c'était intense. Ouais, c'est.
Mais juste une aparté. Alors du coup, les enfants, t'as pu te trouver rapidement une place, soit en crèche, soit trouver une nanny, ou soit pour Olivia, elle était elle allait en crèche.
Ouais, toujours en crèche. Ouais.
Il n'y avait pas d'école encore. Mmh. Ouais.
Mmh.
Parce que je sais qu'en France, les crèches, c'est un peu relou pour trouver une place, non?
Ouais, c'est compliqué. Donc ça a été l'autre nerf de la guerre, c'est-à-dire que ça, c'était aussi un des trucs qu'on avait négocié avec l'agence de relocation, qui devait nous aider à trouver un moyen de garde pour les enfants. Sauf que dans la réalité, en fait, ils n'ont jamais. En fait, ils ont dit « Ah ben non, nous, on peut vous aider pour les inscrire à l'école. » Si tu veux, ils avaient des services qui étaient adaptés pour des gens qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas et une langue qu'ils ne parlent pas. Mais nous, on savait déjà comment inscrire ton enfant à l'école. Ça, c'était pas un problème. Tu vois, contacter une agence immobilière, on savait le faire aussi. Mais bref, du coup, on s'est retrouvé complètement le bec dans l'eau par rapport à ça. Donc, il y a la nounou de ma nièce, donc la fille de ma sœur, qui a accepté de nous prendre les enfants en dépannage je ne sais plus combien, c'était 2 ou 3 jours par semaine, je crois. Et on a trouvé une micro-crèche. Donc, c'est micro-crèche, c'est un système de crèche privé, en fait, mais quand même agréé par l'État, qui nous les prenait aussi 2 jours par semaine. Donc, ça, c'était bien tant qu'on était dans le Airbnb. Ensuite, on a emménagé donc, dans une autre ville qui était à peu près à 10-15 km de ce Airbnb. Et donc là, il a fallu rechercher de nouveau des modes de garde. Là, on était en février. Donc, si tu veux, j'ai appelé toutes les assistantes maternelles agréées de notre village et des villages avoisinants qui m'ont gentiment dit que en février, il fallait quand même pas espérer trouver une place parce que vous vous rendez compte quand même, les gens, ils s'y prennent. Ils m'appellent maintenant en février pour une place en septembre. Donc là, tu comprends bien déjà qu'on s'est fait rembarrer à plus d'une reprise. Donc, on a continué. Donc, Noam, lui, on lui a trouvé une nounou, donc une assistante maternelle qui pouvait le prendre. Elle ne pouvait prendre que lui car il lui restait un seul agrément, si tu veux, pour un enfant de moins de 18 mois. Donc, Noam, on a pu le caler dans le village. Donc, ça, c'était cool. Par contre, Olivia, on n'a pas eu de place pour elle, jusqu'à sa rentrée scolaire. Donc, en gros, on a continué à faire 1 heure de route le matin et 1 heure de route le soir pour l'emmener à la micro-crèche et à la nounou qu'on avait, du coup, un peu plus loin. Donc, voilà. Donc, on s'est rajouté 2 heures de transport.
Oh, la vache.
Et franchement, on a appelé toutes les assistantes maternelles de tous les villages autour, quoi. Les centres, les crèches. Alors, la crèche du village a pu nous la prendre, mais le mercredi uniquement. Donc, ce qui fait qu'Olivia s'est retrouvée avec 3 modes de garde parce qu'elle allait 2 jours en micro-crèche, 2 jours chez la nounou, du coup, qui était la nounou de ma nièce, et une journée à la crèche du village.
Et du coup, ça allait pour elle ? Parce que j'imagine en plus qu'elle était dans le super... sur la super tranche d'âge qu'on adore du Terrible 2. je veux dire, ça allait pour elle ? Ou je veux dire, elle t'a fait quand même... voilà, non, elle t'a donné quand même un peu de fil à retordre.
Ouais, non, ça a été très très dur pour elle. Et du coup, ça, c'est un truc aussi que j'aimerais bien dire, c'est que... Tu vois, moi, tout le monde m'a dit, même je les ai pas forcément cru, mais beaucoup de gens te disent, oh, mais tu verras, les enfants sont flexibles. C'est pas comme ça qu'on dit en français. Ils s'adaptent, t'inquiète pas,
ils s'adaptent.
Ils s'adaptent super vite, bien plus vite que les adultes, etc. Et honnêtement, pour Olivia, ça n'a pas été le cas. Alors, je ne minimise pas le fait que nous, on était forcément hyper stressés. Comme je viens d'expliquer, on avait beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas droit, on va dire, logistiquement parlant. Mais là, Olivia s'est mise à faire des grosses, grosses crises d'anxiété, en fait. D'un instant à l'autre, à complètement péter les plombs, genre à hurler, à pleurer, à avoir une colère qui était bien plus grande qu'elle et qu'elle n'arrivait pas à gérer. Et là, ça a été hyper dur parce que nous, on s'est retrouvés complètement, à la fois coupables, tu vois, de se dire, mais qu'est-ce qu'on lui fait subir à cette pauvre petite, tu vois, de l'avoir déracinée. Ouais. Alors, elle avait 2 ans, elle venait d'avoir un petit frère, on a changé de pays, tu vois, ça fait beaucoup pour un enfant quand même.
Ouais, et puis, elle a 3 structures différentes par...
C'est ça.
Enfin, on va pas faire la liste, mais oui, ça fait quand même beaucoup pour...
Bah, c'est ça,
pour
ça veut dire que t'as à peine le temps de construire une amitié avec, tu vois, déjà les amitiés que tu peux construire à 2 ans, mais t'as pas le temps de t'adapter à un mode de garde que, en fait, le lendemain, t'es dans un autre, et puis le surlendemain, t'es sur un troisième, ouais. etc., etc. Donc ça, ça a été un passage qui a été très, très difficile, et en fait, très rapidement, je crois qu'au bout d'une semaine, quand vraiment elle avait ces explosions d'émotions... on s'est dit avec Loïs, mais on peut pas rester comme ça, il faut qu'on se fasse aider. Enfin, nous, on savait plus quoi faire, quoi. C'était juste horrible.
Mais t'avais pas de la famille, justement, pour t'aider?
On avait de la famille, mais je veux dire, l'aide là qu'il nous fallait, c'était autre chose, quoi. C'était une aide psychologique, on savait plus du tout comment.
Oui, bien entendu, mais tu vois, je me dis quand même, si je reviens en France, j'essaye de me mettre à côté de ma famille, et voilà, j'ai espoir qu'on me vienne en aide un minimum, tu vois, et au moins des voilà, alors... amis ou famille.
Mais après, il n'y avait pas... Tu vois, même rétrospectivement, je ne sais pas trop comment on aurait pu plus nous aider.
Ouais.
C'est une période qui est délicate aussi, parce que ma maman, qui nous aide aujourd'hui beaucoup, en fait, s'occupait beaucoup de mon grand-père, qui est décédé pas longtemps après notre retour.
Ok.
Du coup, voilà, ça a été un peu compliqué. Voilà, c'était une période qui était vraiment, vraiment difficile. 2018, pour nous, ça a été une année assez noire, on va dire. Et bon, c'est vrai que fondamentalement, tous les jours, fallait que les enfants, tu vois, soient par là, gardés, etc. Et ça, ma mère, elle pouvait pas le faire. Donc ouais, avec Olivia, ça a été un passage compliqué. On a trouvé une thérapeute, enfin, c'était une coach en parentalité bienveillante qui nous a accompagnés pendant plusieurs mois. Je sais, de tête, je te dirais comme 4 mois, je pense. Avec laquelle on a fait un travail formidable et on a, nous, réussi à comprendre plein de choses. Et du coup, les tensions se sont, enfin, tu vois, ce débordement émotionnel d'Olivia, c'est très vite apaisé. Et,
dissipé, et du coup, c'est cool.
Ouais, ça nous a fait vraiment bien. Mais comme quoi, les enfants ne sont pas forcément adaptables. C'est aussi des éponges qui absorbent beaucoup le stress de leurs parents. Et du coup, mais ça, c'est assez vite rentré dans l'ordre, ouais.
D'accord. Mais alors, en fait, dans ton tout premier épisode de ton podcast, et c'est grâce à ça que je t'ai contactée, tu expliques que voilà, ça a été un raz-de-marée progressif à te, voilà, à te dire ça ne va pas, j'ai pas fait le bon choix. Comment tu expliques au fur et à mesure les signes qui auraient dû t'alerter à te dire ok, il faut faire quelque chose là parce que ça ne va plus du tout?
Je pense que tout ça, c'est insidieux, en fait, en tout cas, je sais pas, moi, la façon dont je l'ai vécu, hein, après, c'est, encore une fois, il y a des choses qui sont très personnelles et qu'on vit chacun différemment. Moi, je me suis dit, ça va plus le moment où je me suis vraiment pris le mur, en fait, tu vois. Et donc, je vais détailler un petit peu, mais en gros, donc, quand on est rentré, donc, 2018, il s'est passé ça. En juin, on avait quand même prévu des vacances, donc, quand on est rentré, on a prévu des vacances pour juin 2018. On est parti 2 semaines en République dominicaine. Et là, en fait, j'ai senti que je frôlais le burn-out. Vraiment, les 15 jours, là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu viens de faire, quoi, de bosser de 8h à 2h du matin tous les jours, tu vois, avec la gestion des enfants et tout. Et puis, quand on est rentré, ça s'est calmé, parce que du coup, les vacances, tu sais, d'été sont arrivées. Ça veut dire que les entreprises ont aussi tourné au ralenti. Moi, ma saison événementielle s'est ralentie. Donc là, tu vois, j'ai repris une bouffée d'oxygène. Ensuite, en août, on est parti 1 mois en Californie, donc dans la baie, parce que Loïs est parti faire une formation. On est parti tous les 4. Et du coup, là, on s'est retrouvés. Moi, je bossais, mais c'était pas à temps plein. Donc, c'était bien, parce que voilà, comme je te dis, c'est une période creuse. Et puis, en septembre, Olivia a commencé, en fait, l'école, tout simplement. Elle est rentrée en petite section.
Alléluia!
Ouais, exactement. Donc, tout le monde avait déjà tous les allers-retours à faire. On était dans le village. Tout le monde était dans le village, en fait. Et là, déjà, ça a été un gros soulagement. Et puis, moi, j'ai senti que ça commençait à se tasser. Du coup, je n'ai pas repris la mission parce que la femme de mon cousin a repris son job. Donc, j'avais plus que mon job. Voilà.
Donc, ça a l'air d'aller mieux au fur et à mesure quand même des mois qui passent. Voilà. Là.
Et je te dirais que, je pense, tu vois, en octobre à peu près, donc un mois après la rentrée scolaire, je me suis dit, ah, là, je sors du mode survie et je commence à vivre, en fait. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, à Grenoble, on avait des amis, et en fait, ces 9 mois qui venaient de s'écouler, donc, entre janvier et plus ou moins la rentrée scolaire, tu vois, de par ce que je viens d'expliquer, on était tellement à fond tête dans le guidon qu'on avait presque vu personne, en fait. On s'était même isolés par la force des choses, on n'était pas disponible par le temps, on n'était pas disponible par l'esprit, enfin voilà. Et là, voilà, en septembre, j'ai vraiment eu ce sentiment et de, tu vois, d'avoir formulé dans ma tête, je sors du mode survie. Ça y est, je commence à revivre un peu. Donc aussi, quand tu sors, que tu emmènes ton enfant à l'école, j'ai commencé un petit peu à sympathiser avec des mamans de l'école. On a pu revoir nos amis de façon plus fréquente. Et donc là, ça a commencé à aller mieux. Et puis, mais il y avait quand même encore ce truc genre, ouais, est-ce que peut-être on repartirait pas, etc. Et surtout, ce qui se passait, c'est que très rapidement après notre retour, du coup, le chef de Loïs qui était à Portland n'arrêtait pas de lui faire, tu sais, un peu de passer des emails, genre, oui, tu sais, si tu veux revenir, tiens, si tu veux revenir, tu reviendrais pas, si tu veux revenir, tu vois. Et ça, c'était assez fréquent, quoi. Il y avait ça, en fait, en trame de fond, je crois qu'il nous empêchait aussi un petit peu d'avancer complètement, en fait. Parce que forcément, ça revenait titiller des trucs où on n'était encore pas trop sûr de notre choix à ce moment-là. Donc, bon, l'année scolaire, donc septembre, et puis, donc là, on arrive en 2019, et Loïs part à Portland, parce que du coup, il s'en sortait vraiment pas à Portland, et donc son chef de Portland, enfin son ancien chef de Portland, lui dit, est-ce que tu peux venir 15 jours pour nous aider, on s'en sort pas.
D'accord.
Il part à Portland pendant 15 jours, en accord avec le chef de Grenoble, et une fois à Portland, je dis, écoute, Loïs, ça fait un an que ça dure, ces appels du pied, tu reviens pas, je dis, maintenant tu te mets à table avec eux, enfin, entre guillemets, quoi. Et tu leur demandes, en fait, qu'est-ce qu'ils sont prêts à t'offrir comme job si tu reviens, et on en discute, tu vois. Bon, et du coup, ça se passe, il rentre en France, il me dit, écoute, non, clairement, il n'y a rien à obtenir. En fait, il voulait bien le reprendre, ça, c'était pas le problème, mais il voulait le reprendre à des conditions financières qui, nous, ne nous convenaient pas du tout, quoi.
Qui étaient restées les mêmes, c'est
exactement.
Ça
exactement. Donc, en fait, si on repartait avec ce salaire-là, ça voulait dire avoir exactement les mêmes préoccupations par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure du coût de la vie, etc. Oui. Donc, c'était ridicule, quoi. Donc, il rentre et il me dit, écoute, non, c'est pas bon. Sauf que deux jours plus tard... Un gars de Californie en l'occurrence, qui, donc de cette même entreprise, qui avait entendu parler de lui, etc., le contacte et lui fait une proposition d'un poste. Alors je vais passer très rapidement sur cette. Donc ça, c'était fin mars. En gros, d'accord. Il y a eu des négociations, des entretiens, des allers-retours, etc., pendant quasiment 4 mois. Parce que
donc ça te tient en haleine.
Exactement. Donc à chaque fois, c'était genre, tu te projettes, bah tiens, peut-être que. Et puis du coup, en juillet, finalement, ils nous envoient donc, ce qu'on appelle la offer letter, donc qui est la lettre officielle comme quoi ils veulent t'embaucher et notamment, très important, le tarif auquel ils veulent t'embaucher. Et en fait, là, on est tombé des nues parce qu'en fait, c'était 5 000 $ de plus. Que... Mais oui, ça faisait toujours pas une grosse différence alors que c'était un poste avec beaucoup de responsabilités et que du coup, nous, on s'attendait vraiment à une différence significative et là, on est vraiment tombé de haut, quoi. Et ouais, là, c'est vraiment la désillusion totale. Le truc nous avait tenu en haleine depuis 4 mois. Et là, moi, je commence vraiment à prendre un coup. Où tu vois, là, ça vient remettre, en fait, une couche. C'est comme tu remets du sel sur la plaie, quoi.
Ouais.
Et l'été arrive. Et en fait, on s'est beaucoup occupé pendant cet été-là. On n'a pas arrêté de vadrouiller, etc. Et donc, septembre 2019 arrive. Et là, je dis à Loïs, écoute... Bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, concrètement, donc là, je lui dis, j'ai l'impression qu'on a toujours le cul entre deux chaises.
Clairement.
On est là, mais on n'est pas là, on ne sait pas trop.
Comment t'avances, toi, mentalement, si...
Ouais.
Voilà, ça te titille à droite, ça te titille à gauche, quoi.
Et même lui, hein, il était... Alors, lui, il est peut-être beaucoup plus, comment dire, tu vois, dans ses émotions, il s'emballe moins vite que moi. Il est plus modéré dans ses émotions, donc il ne s'est jamais emballé vis-à-vis de ce poste. Mais franchement, il aurait été prêt à le prendre si les conditions avaient été réunies, quoi.
Mais alors, attends, ça me fait une bonne question quand même, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais donc là, entre le moment où quand même vous rentrez en France et se rendre compte que le contrat en Californie ne va pas se faire... Comment vous avez vécu votre relation? Parce que j'imagine avec ce stress entre gérer le travail, les enfants, toute la logistique de se réinstaller en France, en plus cet espoir de potentiellement retourner aux US qui avance pas. Enfin, je veux dire, comment vous vivez vous dans votre couple et avec les enfants d'ailleurs, j'ai oublié quand même parce qu'il faut les gérer au quotidien.
Ouais, alors avec les enfants, ça va, ça se passe plutôt bien et dans l'ensemble, on est plutôt, tu vois, unis dans notre parentalité. On est sur la même longueur d'onde et donc voilà, vis-à-vis des enfants, ça se passe bien. Par contre, entre nous, forcément, il y a une distance qui s'installe parce que D'une part parce que bah, moi je suis débordée vraiment avec le boulot, voilà, tu vois, je me mets un peu la tête baissée dedans, donc c'est, voilà, ça m'occupe beaucoup. Je pense que je me mets autant dedans parce que sûrement il y a des choses que j'ai pas envie de voir ou pas envie d'admettre. Et du coup voilà, et après il y a l'épisode effectivement donc de ce fameux poste, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait, ça se fait pas, qui là en fait c'est un peu comme un peu le, comment dire, le coup de grâce quoi sur notre couple, où là ça crée vraiment des tensions en fait. En fait, petit à petit et de façon très très insidieuse, c'est, tu vois là, ça, je te dis ça, ça fait un an trois quarts au moment où, où du coup l'offre ne se fait pas, ça fait un an et demi en fait qu'on est rentré en France, et tout doucement en fait on s'est éloigné quoi. Et en fait ça explose donc en septembre 2019 quand on revient à parler des États-Unis, de cette tentative avortée de repartir donc aux États-Unis sur un poste, etc. Où lui, en fait, il me dit, écoute, c'est bon, les US, j'ai plus du tout envie d'en entendre parler, enfin, c'est plus possible, etc. Et où là, moi, je comprends qu'en fait, ça fait un an, trois quarts, on va dire, que je vis avec l'espoir qu'on va repartir, et qu'en fait, cet espoir vient de disparaître à tout jamais, quoi, en gros. Tu vois, c'est l'effet que ça me fait sur le moment, quoi. Et là, ça explose vraiment assez fort entre nous, et là, c'est très, très dur. Là, c'est l'explosion qui est dure, mais c'est tout ce que ça vient réveiller chez moi, en fait.
Mais alors, tu lui en as voulu, entre guillemets, de t'avoir obligé à rentrer en France quand...
Non, parce que...
En fait, tu t'es rendu compte que tu ne voulais pas rentrer en France ?
En fait, alors, vraiment, la chose qui est très, très claire, c'est que je n'ai jamais, premièrement, eu l'impression qu'il m'obligeait à rentrer en France. C'est vraiment une décision qu'on a prise à deux.
C'est important, je pense, de le rappeler.
Ouais, vraiment, parce que ça a été aussi un peu un sujet où lui, il pensait que je pensais qu'il m'avait forcé, alors qu'en fait, non, pas du tout. Hein. Vraiment, c'est un choix que j'ai fait... en mon âme et conscience, enfin, c'est un choix qu'on a fait à deux et que voilà, ça c'est, j'ai jamais ressenti aucune pression de sa part pour rentrer, vraiment pas. Et donc du coup, j'en ai jamais voulu d'être rentrée en fait. Par contre, je m'en suis voulu. Et donc c'est là où moi, là je, donc à ce moment-là, donc là on est en octobre 2019, là je perds pied. Là vraiment, ça explose chez moi. Et tu vois, tu me disais comment tu te rends compte, est-ce qu'il y avait des signaux, etc. Je sais pas, je les ai pas vus en tout cas clairement. Et là, en fait, j'explose. Et donc là, je me mets à faire des crises d'angoisse, chose qui ne m'était jamais arrivée de ma vie. Je me réveille au milieu de la nuit avec des sueurs froides. Je transpire, j'ai le cœur qui bat, je ne sais pas, à 150, tu vois, à l'heure. Et en fait, au fur et à mesure, enfin, c'est hyper vicieux, mais au fur et à mesure que je m'enfonce là-dedans, je n'arrive plus à travailler. Moins j'arrive à travailler, plus je me dis qu'ils vont voir que je suis en fait un imposteur. Donc, il, c'est-à-dire mon chef, etc.,
ouais.
Donc, que je vais finir par perdre mon boulot. Donc, ça m'angoisse encore plus. Et comme ça m'angoisse encore plus, je suis encore plus paralysée pour avancer dans mon boulot, tu vois. Et c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Et donc là, forcément, ça va de moins en moins bien avec Loïs parce que je suis fatiguée, parce que je prends tout mal, parce que voilà, parce qu'on n'arrive plus à se parler, parce que moi, je suis à fleur de peau. Et là, en fait, il y a un jour où vraiment, j'explose et il me dit, écoute, je sais plus comment t'aider, faut que tu trouves de l'aide extérieure, je sais plus quoi faire, quoi.
Ce qui est un bon conseil, en fait, mine de rien.
Non, mais carrément. Sur le coup, tu sais, j'avoue que je l'ai un peu mal pris.
Oui, tu t'es braqué,
ouais.
Mais en soi, c'est un très bon conseil.
C'est un excellent conseil parce qu'on peut pas être le psy de son mari ou de sa femme, ça c'est clairement
non.
Pas. Et puis là, c'était un sujet qui était tellement touchy parce que c'était un truc qui nous concernait tous les deux, tu vois, c'était... Enfin, ouais, c'était impossible d'en parler objectivement avec lui, en tout cas, et de ma part et de sa part. Bref, donc le lendemain matin, je me réveille, je me dis, écoute, la cocotte, faut que tu fasses quelque chose, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai appelé, en fait, j'ai pris, alors pas les pages jaunes, parce que ça n'existe plus, ou en tout cas, moi, je les ai pas, mais j'ai pris Google, et j'ai cherché psy, tu vois, dans le village où on habite, et je me suis dit, là, faut que je voie quelqu'un, parce que je vais littéralement, là, je pense que... Enfin, j'étais mal, hein, j'étais vraiment... je vais pas dire que j'avais des pensées suicidaires, mais j'étais vraiment quand même pas très loin de complètement perdre pied, quoi. Donc, du coup, je suis tombée sur quelqu'un de très, très bien qui m'a pu me recevoir, je crois, dans les 48 heures. Et la première séance a duré 2 heures. Et j'ai vidé mon sac pendant 2 heures, mais avec ce sentiment, au bout de 2 heures, de sortir. Alors, j'ai beaucoup pleuré, hein, parce qu'en plus, je pleure facilement. Mais de sortir au bout de 2 heures et de me dire « punaise ». Mais ça fait du bien, en fait, c'est tout ce que j'ai retenu d'émotion pendant 2 ans, en fait. Et c'était énorme, j'ai l'impression d'être sortie avec 20 kilos de moins, quoi. C'était...
Quels étaient ces conseils, globalement ? C'était... Enfin, est-ce qu'ils te proposent des solutions pragmatiques à mettre en place ?
Pas tellement, en fait. Surtout, il me fait parler et il me fait explorer en fait pourquoi ça va pas. Voilà, je me rappelle une des premières séances où je parle de sacrifice. Donc là, il met un peu le doigt dessus en disant sacrifice, c'est quand même fort en termes de termes. Qu'est-ce que voilà. Et je dis bah oui, effectivement, moi j'ai l'impression que j'avais rien à gagner dans notre retour. Mais c'est surtout ça en fait, c'est surtout le fait de me faire déballer mes émotions, et déjà de mettre un nom sur mes émotions, d'accepter de dire mes émotions, d'accepter en fait de se dire que c'est ok de les ressentir, que oui c'est une épreuve, que oui on a traversé pas mal de choses depuis qu'on est rentré, le boulot, les enfants, toute cette pression, etc. Et en fait, au fur et à mesure de cette conversation, je me rends compte que voilà, il y a des choses qui m'empêchent d'avancer, et c'est vraiment... Lui, son rôle, c'est pas tellement de me donner des conseils, mais c'est plutôt de m'accompagner dans l'exploration de ses émotions et d'essayer de comprendre pourquoi, d'où elles viennent et surtout comment, comment les accepter puis les atténuer, en fait. Les faire se calmer, voilà, que l'angoisse se calme, etc. Et finalement, en fait, on y arrive assez rapidement en discutant. Et juste le fait que je puisse en parler, je crois que c'était surtout ça qui m'a libérée, c'est de parler à quelqu'un de neutre. Et de dire, mais en fait, ça va pas, parce que beaucoup de gens te disent, oui, mais t'as un toit sur la tête, oui, mais tes enfants sont en bonne santé, ou mais pourquoi tu te plains, t'as un job, t'as... Mais en fait, ça va bien au-delà de tout ça, et de pouvoir le verbaliser à une personne qui est absolument neutre, et qui est juste là pour, ben voilà, pour te guider dans cette exploration, en fait.
Oui. Tu penses que ce travail a mis combien de temps ?
Eh bien, je l'ai vu jusqu'au confinement. Donc mi-mars, donc j'ai commencé, alors je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que j'ai dû commencer en novembre de mémoire. Donc voilà, j'ai mis 4 ou 5 mois. Et puis en fait, mais déjà début janvier 2020, je me suis sentie déjà vachement mieux. C'est vraiment le fait d'avoir eu ces séances et d'avoir parlé, d'avoir... Il y a plein de choses qui se sont décantées en moi.
Ouais, tu avais moins de... Ces crises d'angoisse, par exemple, que tu décrivais un tout petit peu avant, est-ce qu'elles se sont atténuées au fur et à mesure ?
Oui, en fait, même les crises d'angoisse se sont atténuées très vite. Oui, au bout de 2-3 séances, je crois, et je le voyais une fois par semaine à ce moment-là. Et ça s'est atténué assez vite. Et du coup, j'ai pu reprendre un peu le contrôle sur ma vie, déjà, sur ces éléments qui me créaient de l'angoisse. Et puis, il y a un élément qui est venu... vraiment faire basculer du bon côté tout ce travail que je faisais, c'est que on a quitté l'appartement dans lequel on vivait et on s'est installé dans une maison. Donc on est resté dans le village où on était depuis notre retour, mais on est passé d'un appartement à une maison. Et pour moi, ça a été déterminant parce que au-delà du confort que ça nous apportait, que moi j'allais enfin avoir mon propre bureau et plus travailler au milieu de la cuisine ou tout ça. Ouais. Eh bien, c'était en fait la première fois que j'avais l'impression de prendre une décision vraiment, réfléchie. Et en fait, pas une décision par dépit, c'est-à-dire que l'appartement, on l'avait trouvé in extremis avant de se retrouver à la porte. Il y avait des choix de garde qui étaient des non-choix, en fait, qui étaient des solutions un peu système D parce qu'on n'arrivait pas à trouver mieux. Et là, vraiment, cette maison, je l'ai visitée, j'ai eu un coup de cœur, il y a un grand jardin. Et voilà, et vraiment, je voyais de nouveau une façon, en fait, de m'enraciner, alors pas dans le sens péjoratif du terme, mais de reprendre des racines dans un endroit qui vraiment me convenait et de pouvoir reconstruire à partir de ça, en fait. On a emménagé dans cette maison en janvier, fin janvier, et déjà là, ça a fait une différence énorme. Et après, je pense que voilà, il y avait aussi le travail de plusieurs mois déjà de thérapie. Et puis voilà, puis je l'ai vu jusqu'au confinement, et puis le confinement a un peu compliqué les choses pour se voir. Et puis en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'allais bien, que fondamentalement, ça y est, j'étais vraiment de mieux en mieux, je me sentais de mieux en mieux et que je ressentais plus le besoin, alors de toute façon j'étais dans l'incapacité à cause du confinement, mais que je ressentais plus le besoin de le voir. Donc du coup, même après le confinement, j'ai pas repris parce que voilà, ça y est, ma vie était sur les rails et vraiment, c'était chouette, quoi.
Et puis, j'imagine que la communication a repris petit à petit avec Loïs.
Oui, alors avec Loïs, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais en fait,
Je me suis rendu compte au fil de ma thérapie qu'il y avait des choses qu'on ne pourrait pas résoudre juste tous les deux. Donc, on a aussi fait le choix d'aller voir quelqu'un ensemble, qui était un psychologue différent de celui que moi je voyais individuellement. Mm-hmm. Du coup, très rapidement, ça a commencé à, ouais, c'est ça, ça a recréé un lien en fait entre nous, le fait de pouvoir parler et même si on se comprenait pas, on avait comme cette personne qui était un interprète pour nous en fait, et ça a été salvateur.
Ouais. Mais c'est bien de démystifier les thérapies de couple, hein. Enfin, on n'en parle pas assez et c'est un sujet tabou en société, ce qui est vraiment dommage. Mais je trouve que c'est bien de faire d'aller au moins voir quelqu'un avant que ce soit trop tard. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, exactement. Et en fait, nous, on est vraiment allés dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'un jour, je me rappelle, on est allés manger ensemble et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on ait une conversation. Moi, j'ai besoin de te dire des choses. Et je lui ai dit, écoute, là, je sens que vraiment, ça ne va pas. Et j'ai l'impression qu'on arrive bientôt au stade où il n'y aura plus de retour possible, en fait. Et je pense qu'on est à vraiment, tu vois, un croisement. C'est-à-dire que soit on a envie de donner une chance à notre couple et on décide de se faire aider. Soit on continue sur le même chemin, mais j'ai bien peur qu'on aille dans le mur et que, voilà, que ce sera irréparable. Et Loïs, c'est vraiment quelqu'un de super pour ça, parce que voilà, on a vraiment la même vision, oui, en tout cas. Et pour lui, effectivement, on peut pas abandonner maintenant dans notre couple, dans notre mariage. Il faut qu'on se donne cette chance.
C'est top. Mmh. Oui. Non, c'est vraiment top. Parce que il y a toujours, et puis en général, ça vient quand même de l'époux, qu'on se le dise, à cette fierté, à se dire non, mais on n'a pas besoin de ça, ce genre de choses, alors que, enfin, ça t'engage à quoi d'aller voir quelqu'un et juste de parler, quoi. Enfin, ouais.
C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, du coup, par rapport à des proches ou des, voilà, des... Je sais que souvent les hommes, alors c'est un peu caricatural, mais en même temps, c'est pas complètement faux. Les hommes sont souvent plus réticents, ouais, à aller consulter quelqu'un pour se faire aider. Mais en même temps, là, on se rendait compte, et lui se rendait compte aussi, que si... Enfin, je crois qu'on s'est rendu à l'évidence. Si on n'y va pas, c'est... On va, dans 3 mois, on divorce, quoi. Donc, voilà.
Bon, bah, c'est super alors. C'est, ouais, un beau travail. Donc, j'imagine que si les parents vont mieux, les enfants allaient mieux.
Bah oui, effectivement. Et encore une fois, pour différentes raisons, mais voilà, Olivia était de plus en plus. Était de mieux en mieux dans sa classe. Voilà, elle avait trouvé des repères, elle avait ses copines, elle avait un environnement stable, etc. Mmh. Et puis c'est vrai que très rapidement est arrivé donc le confinement, après cette grosse période de crise, on va dire. Donc ça a été aussi, oui, du temps de qualité qu'on a pu passer avec eux individuellement ou tous ensemble. Et de se retrouver après, voilà, pour moi en tout cas, un peu plus de 2 ans de mal-être et de moins bien. Ouais.
Et j'aimerais bien alors donc du coup savoir, quand as-tu décidé du coup de lancer ton podcast Derrière les sourires? Est-ce que c'était pendant le confinement?
Alors en fait, le podcast, je pense que vraiment l'idée... donc en fait, au moment où vraiment j'étais au pic, ou plutôt au creux de ma dépression, j'ai décidé de couper les réseaux sociaux parce que ça m'a, oui, apporté beaucoup de frustration, beaucoup de... quelque part, je pense, de jalousie. C'était, voilà, j'en retirais des émotions très négatives, donc j'ai décidé de couper. Et je crois que je suis restée déconnectée pendant plusieurs semaines, peut-être pas loin d'un mois. Et puis quand ça allait, que je commençais à aller un petit peu mieux et que j'ai décidé de revenir sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, je me sentais plus la force de cacher en fait ce que j'avais caché pendant plusieurs mois, c'est-à-dire que j'ai jamais parlé du fait que j'allais pas bien et je postais des photos tout sourire, etc.
Ouais.
Et donc au moment où je suis revenue, je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. Les réseaux sociaux, c'est un truc où tu dois te sentir faire partie d'une communauté, mais te sentir bien en fait, quelque chose qui t'apporte.
En phase.
Mais ouais, en phase. Et moi, en fait, vraiment, c'était plus ça. Donc, je ne peux plus, moi, continuer à prétendre que tout va bien, ne pas parler, revenir comme si de rien n'était, alors que je viens de traverser une des pires périodes de ma vie, quoi. Donc là, en fait, oui, j'ai parlé très publiquement. Alors, j'ai pas fait un face cam, comme on dit, mais j'ai écrit, en fait, en story, mon retour et ce qui venait de se passer. Que, voilà, que j'avais été très, très mal, que j'avais été en dépression, que, voilà, je m'étais fait aider par un psy, etc., qu'avec Loïs... ça avait été très compliqué, qu'on avait aussi fait un travail de couple. Et en fait, j'ai été à la fois très agréablement surprise, j'ai reçu énormément de messages de soutien, Et en même temps, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient « Je suis désolée que tu aies traversé ça. Moi aussi, ça ne va pas dans ma vie. J'ai telle galère, je traverse telle épreuve. Et merci à toi d'en parler de façon très transparente parce qu'on finit par ne voir que le plus beau sur les réseaux sociaux et on en oublie qu'on est des êtres humains et qu'on a aussi des difficultés au quotidien. » Et je pense que l'idée a germé à cet instant-là où je me suis dit « Mais c'est pas possible, en fait. On est tous sur Instagram à se mettre les meilleures photos de nous-mêmes alors qu'en fait, il y a d'autres choses qui se passent derrière ces sourires. » Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. C'est comme ça, je pense, que le titre m'est venu. Mmh. Et voilà. Mais seulement, donc là, je te parle de ça, c'était probablement comme en février. Mais à ce moment-là, je me sentais pas encore suffisamment la force d'enclencher vraiment tout le travail autour de ça. J'avais besoin... Puis bon, voilà, comme je disais, il y a eu le confinement, donc ça a limité aussi dans certains projets. Mais je crois que j'étais pas prête à ce moment-là, et du coup, je me suis laissée, plusieurs mois pour affiner mon idée, pour vraiment me sentir la force de me lancer, en fait. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai lancé en octobre dernier, donc quasiment, je dirais, 8 mois après avoir eu l'idée. Et pendant 8 mois, j'étais assez persuadée que j'allais le lancer. J'avais juste besoin, je pense, de regrouper un peu de force et du poil de la bête, comme on dit, pour me lancer dans cette aventure-là.
Mais en tout cas, tu nous trouves des très, très beaux témoignages. Je trouve que chaque personne apporte son lot de courage.
Merci.
Non, en vrai. Pour avoir bingé un peu quelques épisodes à la suite, je suis impressionnée par la qualité, en tout cas, des conversations que tu peux avoir avec ces gens, vraiment.
Merci beaucoup.
Et donc, du coup, je recommande bien entendu ton podcast. Aujourd'hui, alors, si on peut faire un bilan de ton impatriation, comment ça va ?
Bah, ça va très, très bien. Voilà, ouais. On est en février 2021. Je peux dire que ça fait un an que vraiment, je me sens bien dans ma vie. Je me sens de nouveau en phase avec nos choix. Et voilà, je vois que le positif maintenant du fait d'être rentrée, parce que voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses positives. Ma maman est en retraite depuis plusieurs mois, donc ça veut aussi dire qu'elle nous garde les enfants. Voilà, elle essaie aussi un petit peu de rattraper le temps perdu, mais c'est vrai qu'elle n'en a pas beaucoup profité les premières années quand on n'était pas en France. Et voilà, elle a beaucoup de plaisir à les garder et nous, on a du coup beaucoup de plaisir à se retrouver aussi, avoir des petits temps à deux. Le podcast m'épanouit. J'ai vraiment trouvé un équilibre. On est bien dans le village dans lequel on vit, on est toujours bien dans la maison. Alors, je vais pas... Il y a toujours des petits moments un peu moins... un peu plus difficiles parce que voilà, on a des enfants en bas âge, etc. Mais par rapport à ce que j'ai traversé, je me sens vraiment très, très apaisée et... très bien, pas nécessairement d'ailleurs l'envie de repartir. Je crois que cette envie ou voilà, ce désir m'a complètement quittée. Et, je ne dis pas qu'on repartira jamais parce qu'on n'est pas de ce genre-là avec Loïs à se dire jamais. On reste toujours ouvert aux opportunités, quelles qu'elles soient, mais on ne cherche pas à partir et on profite juste de la vie ici.
Puis j'imagine que les enfants sont tellement contents de passer du temps avec vos familles respectives.
Ouais, exactement. Bah, du coup, ils nouent des liens avec leurs cousins et leurs cousines, ce qui est aussi assez nouveau. Et en même temps, finalement, ça s'était fait très naturellement, comme si c'était toujours connu. Mais oui, ils ont beaucoup de plaisir à voir leurs grands-parents, leurs cousins, cousines, à passer du temps chez les uns, chez les autres. Donc ça, c'est chouette.
Oui. Et alors, donc, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui sont dans le même cas de figure que toi ?
Alors, moi, je pense que j'ai jamais regretté nos décisions, aussi difficiles que les conséquences aient pu être. Par contre, a posteriori, ce que je ne referai pas, c'est de rentrer avec un métier, c'est-à-dire un poste à temps plein pour les deux et des enfants en bas âge. Tu vois, quand tu rentres et qu'il y a un des deux parents qui ne va pas travailler, qui peut gérer un peu tous ces aspects logistiques, administratifs au retour, et plus les enfants, etc., je pense que ça doit être autrement plus facile que les conditions dans lesquelles nous, on est rentrés. Noam avait 5 mois, hein, je l'ai précisé, Olivia en avait à peine 2 ans, et ça a été dur. Donc ça, je pense que mon conseil, c'est si vous pouvez attendre un petit peu et rentrer, je ne sais pas, peut-être
un peu plus tard, ben voilà, essayez de considérer ça. Si vous n'êtes pas dans l'obligation de rentrer, essayez de bien vous poser la question, est-ce que c'est vraiment une décision qui vous correspond, alors qui vous correspond à vous en tant que personne, à votre mari, à votre famille, etc. Mais ne vous négligez pas, je pense, dans ce retour et dans les émotions que ça peut vous procurer à vous personnellement, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'étais assez convaincue que c'était une très bonne décision pour ma famille, mais en fait, je me suis totalement évincée de cette équation et c'est là mon tort. Et puis, le dernier conseil, si ça ne va pas et que vous sentez que ça ne va pas, n'attendez pas. Consultez quelqu'un, allez, faites-vous aider, parce qu'il y a, effectivement, tu l'as précisé, il n'y a aucune honte à se faire aider psychologiquement quand on sent qu'on perd pied, quand on sent qu'on n'est pas bien. N'écoutez pas l'entourage qui vous dit que oui, vous avez de la chance, vous avez un toit, vous avez un métier. Oui, mais ça n'empêche en rien le fait qu'on est mal dans sa peau. Et des fois, juste parler, faire quelques séances avec quelqu'un et évacuer en fait ces émotions qu'on n'arrive pas toujours à processer soi-même, ça fait un bien fou et surtout, ça permet d'éviter cette montée en puissance que moi, j'ai connue et qui aurait pu avoir des conséquences, entre guillemets, dramatiques. Mais voilà, ne pas hésiter à se faire aider, que ce soit pour soi ou, comme tu l'as aussi mentionné, pour le couple, parce que c'est important.
Et d'ailleurs, moi, je rajouterais à titre personnel qu'on peut aller voir quelqu'un, mais on peut aussi le voir virtuellement. Le but, c'est vraiment voilà, d'essayer de trouver quelqu'un avec lequel vous soyez capable de travailler sur votre mental, sur la santé mentale, qui est quand même un concept important.
Oui, tout à fait. Et c'est ça, c'est vrai qu'on dit voir quelqu'un parce que bah, c'est un peu un abus de langage. Mais effectivement, aujourd'hui, il existe plein de façons de consulter un thérapeute, que ce soit par téléphone, par Zoom ou en présentiel. Oui. Mais l'idée, voilà, c'est de se faire accompagner.
Oui, surtout en... Là, en période de pandémie où voilà, on est tous un peu restreints.
Exactement.
Non, bah, écoute, Laetitia, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je sais que ce n'est pas des souvenirs rigolos, mais je pense que c'est nécessaire en tout cas de partager ce type d'expérience parce que je suis sûre que ça arrive, mine de rien, à beaucoup de familles qui rentrent dans leur pays d'origine. Donc vraiment, merci beaucoup.
Bah, avec grand plaisir, merci à toi. C'est vrai que je pense que je n'aurais pas pu en parler il y a encore un an de ça. Je pense que je n'aurais pas été capable d'en parler, mais aujourd'hui, je le fais avec plaisir et d'autant plus de plaisir que, comme je te disais, voilà, je suis vraiment bien dans ma peau, bien dans mes baskets, en phase avec mes décisions. Donc voilà, j'espère qu'effectivement, mon témoignage pourra peut-être faire écho à de futurs impatriés et voilà, qui n'hésitent pas d'ailleurs à me contacter si jamais ils ont des questions.
Merci beaucoup Laetitia.
Merci à toi Cindy.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !